journal, Hélène Battini. Bonjour Hélène.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. On débute ce journal direction la Pinède calvaise avec la finale du Ladies Open de Calvi qui se joue ce dimanche là-bas. Pour l'occasion, RCFM a fait le déplacement, vous fait vivre cette prestigieuse compétition de tennis depuis plusieurs jours déjà. Et on retrouve sur place en direct ce midi Jean-Philippe Thibaudeau. Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour Hélène.
La finale a donc débuté à 11h30, il y a une demi-heure maintenant. Elle oppose Valentina Reiser, la Suissesse, à Daria Snigur, l'Ukrainienne. Un match qu'on annonçait ce matin équilibré et spectaculaire surtout. Alors, est-ce le cas ?
Alors spectaculaire, il est effectivement Hélène, une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue avec l'Ukrainienne Daria Snigur qui est immédiatement rentrée dans sa rencontre pour mener 4-0 très très rapidement dans ce match. On se disait alors qu'il n'y aurait pas d'encontre, qu'il n'y aurait pas de finale. C'était sans compter sur la force mentale de la Suissesse Valentina Reiser qui est en train de revenir dans cette rencontre. Elle est revenue à 4-3 dans ce premier set qui reste donc extrêmement indécis. Valentina Reiser qui pourrait être la première joueuse de l'histoire du Ladies Open Calvi au Deauville a réalisé le doublé, c'est-à-dire s'imposer dans la compétition de double. C'est chose faite depuis vendredi et peut-être aujourd'hui dans ce simple face à Daria Snigur. Mais Daria Snigur, c'est la grande favorite, la grandissime favorite de cette compétition. 132e mondiale, tête de série numéro 1. Et au vu des premiers échanges, on peut dire que pour le moment, l'avantage est à l'Ukrainienne. Mais rien n'est joué, Hélène.
Merci Jean-Philippe. Évidemment, vous n'en louperez pas une miette. On y reviendra avec vous dans notre matinale dès demain matin. Donc le Ladies Open de Calvi au Deauville. On quitte la Balagne pour le Cap Corse avec cette mobilisation symbolique hier à Tomine. Une cinquantaine de personnes mobilisées au pied de la tour génoise de la commune à l'appel de Femouagour. S'il y a une mobilisation symbolique, en effet, après que les acquéreurs de ce monument historique dont ils voulaient faire un meublé de tourisme se soient finalement rétractés. Mais une affaire qui a soulevé la question des moyens dont disposent les collectivités pour préempter ce type de bien. Les autonomistes ont souhaité alerter sur les difficultés qu'ont les communes ou même la collectivité de Corse pour acquérir le patrimoine culturel bâti et mettre en avant les bénéfices d'un statut d'autonomie pour la Corse en la matière, leviers fiscaux, financiers mais aussi juridiques. Écoutez François Martinetti, le secrétaire national de Femouagour, siga au micro de Christophe Duigil.
Aujourd'hui, la commune, même si elle avait eu le PLU en ordre, n'avait peut-être pas forcément les moyens de préempter un bien de 215 000 euros. Dire aussi que la collectivité aujourd'hui, son droit de préemption est très limité aux espaces naturels reconnus. Hein, ça a été fait à Caval, mais ici, on ne peut pas le faire. Et montrer, bien sûr, qu'avec l'autonomie, hein, ce n'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pour au moins trois points essentiels. Un, reprendre la compétence culturelle, je dirais à 100%, hein, qui nous permettrait de classer, de mettre en valeur des biens. Deuxième élément, en termes de droit de préemption élargi, hein, on pourrait l'établir. Aujourd'hui, un droit de préemption élargi à tout, à la fois aux éléments du patrimoine, mais aussi plus largement à tout terrain, agricole, en termes de logement, etc. Donc c'est fait en Polynésie française aujourd'hui, hein, il y a une expérience qui existe. Hein, et même chose, troisième point, financer la préemption essentielle, l'autonomie fiscale, taxer certains éléments qui nous semblent scandaleux et nous permettre de finalement d'acquérir une sorte de petit trésor pour nous permettre de sauver d'autres trésors du patrimoine.
La Ligue des droits de l'homme, elle plaide pour une Corse fraternelle. La Corse est confrontée à de mauvaises agitations qui fragilisent notre société, dit-elle. Le rejet de l'autre, la xénophobie taguée sur les murs et les messages haineux sur les réseaux sociaux et autres bombages antisémites, ainsi que les rassemblements ciblant certains quartiers menacent la fraternité. Selon le bureau corse de la LDH, pour une Corse de la fraternité, c'est donc le titre d'un manifeste rédigé par ses membres et présenté hier matin dans un café de Bastia. Parmi eux, présents, André Pacou, le délégué de Corse au comité national de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi Jean-Claude Acquaviva ou encore maître Jean-Sébastien de Casalte, ainsi qu'Elsa Renaud, la présidente de la LDH en Corse. Elle revient sur ce texte au micro de Léria Mariamous.
On sait que ces idéologies de repli sur soi se nourrissent de peur et se nourrissent de souffrance sociale. Ça se manifeste par ce rejet de la communauté de destin et la revendication d'une pureté identitaire. Et nous appelons à ne pas se projeter dans une société repliée sur elle-même. Nous en appelons à faire vivre la fraternité puisque nous sommes riches en Corse comme ailleurs, mais nous sommes riches d'une civilité fondée sur l'hospitalité, sur l'échange, sur le commun. Et c'est sur ces fondements-là qu'on en appelle aux consciences. C'est effectivement un appel à la fraternité, un appel à faire vivre ici l'humanité dans sa diversité. On rappelle que voilà, on est riche de notre diversité, de toutes ces personnes qui vivent et travaillent ici pour construire la société corse d'aujourd'hui.
Et on termine avec un coup de gueule, celui de Global Earth Keeper. L'association dénonce l'inertie des pouvoirs publics dans le dossier des biomédias, ces petits cercles de plastique utilisés dans les stations d'épuration et retrouvés massivement sur les plages corses dès 2021. Une délégation a été reçue en fin de semaine à la préfecture de Haute-Corse. Comme d'autres associations, elle se bat pour faire bouger les autorités communales, intercommunales ou sanitaires et au moins donner une information claire aux citoyens. Laurence Constantin, la présidente de Global Earth Keeper, est au micro d'Alexandre Sanguinetti.
Mettre des panonceaux expliquant qu'elles sont potentiellement porteuses de bactéries pathogènes et que donc les enfants, il faudrait peut-être pas qu'ils se les mettent dans la bouche. Et aussi, quelque chose qui me taraude, ce qui serait intéressant, c'est quand même d'aller voir si dans les fonds, à la sortie de l'émissaire, dans un encadrillant visuellement, voir s'il n'y a pas de ces dunes ou de ces biomédias qui giseraient quelque part, un peu coincés par les algues, un peu coincés par les rochers, et qui, avec les vents et les marées, de temps en temps se soulèveraient et finiraient sur la plage. Auquel cas, si on en trouve, eh bien, on pourrait les récupérer à la source, les forcer à les y déloger. Ça ne me paraît pas énorme. On sait que les tortues les ingèrent, voilà, qui sont porteuses de bactéries pathogènes. Et puis, l'État doit aussi contrôler toutes les stations de fantôme-combles qui utilisent ces procédés-là pour savoir si elles aussi ont des défauts de fabrication, puisque c'était le cas. Et aussi, contrôle la qualité de l'eau à la sortie des émissaires.
Et que belle information, on est à Medjorno et 7 minutes d'Inanterci FM et à Omeniga, de Musica, le cabaret, con Christophe Nuzagal.